Reprise de cette semaine radiophonique sur Truy. Donc toujours à l'accueil jeune de Truy, en compagnie aujourd'hui de Madame Faye. Bonjour Madame Faye.
Bonjour. Appelez-moi Marie-Dominique parce que j'ai entendu depuis mardi que vous préfériez les prénoms.
Tout à fait.
Donc voilà, c'est beaucoup plus simple.
Je trouve que le...
Et plus convivial.
Voilà, ça fait, ça, pour moi ça met une distance en fait, le nom de famille. Bref, donc vous m'avez dit...
Marie-Dominique.
Marie-Dominique. Et donc Madame Blin-Bouvier.
Daniel.
Bonjour Daniel. Alors, tout simplement, si finalement je vous laissais expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Madame Blin-Bouvier, Daniel, pardon, excusez-moi. Ça va venir.
Eh bien, parce que je crois que vous nous aviez parlé de Truy qui pouvait s'ouvrir sur le monde.
C'est exactement la question du jour.
Voilà, et que, puisque je travaille, c'est peut-être un grand terme, mais je suis en relation assez étroite avec un pays de... lointain, qui est l'Inde. Voilà, donc c'était pour venir parler de l'Inde et l'action que notre association Samparc fait en Inde.
Tout à fait.
Voilà.
Bon, en vérité, c'est moi qui, effectivement, qui vous ai demandé de venir. C'était pas l'inverse. Mais c'est vrai que le tournant de ma question était... Marie-Dominique...
Moi, je suis la présidente du comité de jumelage de Truy avec Katokopia, donc qui est une ville chypriote dont on aura l'occasion de parler un peu plus longuement tout à l'heure.
Tout à fait. Et les enjeux qui tournent autour de Chypre
de
également.
Chypre. Voilà.
En fait, aujourd'hui, mercredi, on vous avait informé que Adeline ne serait plus parmi nous. Et donc, Pierrick de l'accueil jeune de Sorigny.
Bonjour, oui, c'est ça.
Voilà, nous a rejoint. Bonjour, Pierrick.
Bonjour.
Ça va
très bien. j'ai dû faire des petits allers-retours, là, pour voir un petit peu si tout fonctionnait techniquement.
Et alors, tout fonctionne?
C'est bon.
On nous entend.
Ouais,
c'est ça. Bon, bah, c'est parfait. Et bien, du coup, j'en passe pour dire bonjour à tous nos auditeurs. En fait, ça me fait vraiment bizarre de reprendre après une journée où finalement ça nous a fait quand même une coupure dans la semaine. Mais bon, ça devrait quand même bien se passer. Alors, la question d'aujourd'hui, donc effectivement, c'était Truy est-elle une ville ouverte au reste du monde ? Question intéressante, je trouve, et j'ai voulu l'amener dans cette semaine tout simplement par rapport à des on-dit qu'on peut avoir sur les villes de en quelque sorte de campagne, si on peut dire. Peut-être ont des tendances à se dire qu'on se renferme sur soi-même. Or, en regardant un petit peu ce qui se passait ici, moi j'avais vraiment trouvé que c'était pas le cas, et donc on va pouvoir en parler tout de suite. Alors, on a choisi d'abord aller le plus loin possible, hein, c'est-à-dire d'abord vous parler de l'Inde, pour ensuite revenir tout doucement, vers la France et vers Truy. Et donc, qu'est-ce qui se fait à Truy? Et donc, tout d'abord, à chaque fois, je perds votre prénom. Daniel. D'ailleurs, Daniel, je l'entends faiblement. Alors, est-ce que nos auditeurs l'entendent correctement, Pierrick?
Normalement, oui.
Normalement, oui. Bon, alors, je ne sais pas. C'est peut-être les retours. En tout cas, Daniel, vous êtes donc déjà allé vous êtes parti en Inde, déjà.
Oui, je suis déjà allé, je ne sais plus si c'est 10 ou 11 fois, mais plusieurs fois.
Ah oui, 10 ou 11 fois, c'est quand même beaucoup.
Oui. J'avais regroupé, si j'avais mis bout à bout tous les séjours que j'ai faits, j'ai dû y passer à peu près 7, enfin pas tout à fait une année, un petit peu moins d'un an.
Ah, tout de même. Et alors comme ça, on dit qu'on faisait un tour du pays. Alors du coup, l'Inde, c'est beaucoup plus grand que la France.
C'est pas tellement plus grand par rapport au nombre d'habitants. L'Inde, ça fait 6-7 fois la France.
Mm-hmm.
Alors qu'il y a 1,2 milliard d'habitants.
Oui.
Voilà.
Donc, c'est beaucoup.
Voilà. On prend moins de place là-bas, hein.
Et alors du coup, pour nos auditeurs, et aussi bien pour moi-même, et peut-être Pierrick même, on a des... Enfin, moi je sais que j'ai des priori, mais comme des croyances hein, qui persistent sur l'état technologique de l'Inde, aussi bien que ce soit au niveau des accès à la santé, des accès à l'eau courante, à l'électricité, ce genre de choses. Ou pour nous dire où est-ce qu'on en est maintenant, là-bas?
C'est un pays qui évolue très très vite. Moi je suis allée en Inde pour la première fois en 1993. Il n'y avait pratiquement pas d'électricité. Une semaine c'était un côté de la rue, l'autre semaine c'était l'autre côté, enfin bref. Et puis 5 ans après, je suis retournée et là j'ai vu, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs ces toutes petites ampoules là qu'on utilise pour les guirlandes de Noël.
Les LED.
Les LED, voilà. Eh bien, il y en avait partout. Et c'est impressionnant quand ils se rendent compte à quel point ça peut améliorer leur vie. Ça va à une vitesse incroyable. Alors attention, hein, les normes sont pas du tout les mêmes que chez nous. Il y a du courant partout, il y a des fils électriques partout, c'est pas forcément bien isolé, enfin bon. Mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça évolue. Alors, vous parliez d'eau courante, oui, l'eau potable, non, pas encore. Ça commence dans les hôtels, peut-être, enfin bon, très peu d'eau potable. Il y a vraiment une évolution, par contre, sur le plan informatique, les médias, les téléphones portables, c'est
ah oui.
Même les gens qui sont dans les bidonvilles ont tous leur téléphone portable. Enfin, voilà. Donc toutes les technologies nouvelles, et là-bas il y a même un puits assez important de savants, d'ailleurs, en chercheurs, en informatique. Oui.
D'accord.
Non, c'est vraiment, ça va très très vite.
C'est-à-dire que même au niveau de l'éducation, en fait, il y a quand même des universités, des choses vraiment
Oui. Les filles, maintenant, vont à l'école aussi bien que les garçons, hein, font des études. On va dire que tous les enfants ont accès à l'école.
D'accord.
Ils vont peut-être pas tous, parce que c'est peut-être pas leur avis, mais maintenant, tous les enfants ont accès à l'école, même si ce sont des enfants pauvres qui travaillent. L'entreprise dans laquelle ils travaillent doit assurer automatiquement une demi-journée de travail, une demi-journée études.
D'accord.
La différence, c'est que ce sont des études basiques à ce moment-là. Hein, ils apprennent à lire, à écrire, à compter. Enfin. Mais maintenant, tous les enfants doivent aller à l'école.
Donc effectivement, grosse avancée. Parce que maintenant, tous les enfants, c'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes, par exemple, les demoiselles n'allaient pas à l'école, il n'y avait que les jeunes garçons.
Voilà, il y a eu effectivement cette période où l'accès à l'école était pour les plus favorisés, en fait. Hein. Ça pouvait être garçons et filles, mais c'était seulement pour les familles favorisées. Maintenant, c'est vraiment... je dirais que ce qui me paraît très intéressant là-bas, c'est que lorsqu'ils mettent en place, donc comme chez nous, hein, par un système de loi, des choses nouvelles, ils ont aussi des gens qui derrière vont vérifier que ça se fait. Donc il y a des contrôles qui sont faits dans les entreprises où il y a encore des enfants qui travaillent, ça faut assurer. En même temps, ça fait vivre des familles aussi.
C'est quel âge? Quand on dit deux enfants.
Il peut y avoir des enfants de 7-8 ans. Hein.
Oui, quand même. Ouais.
Bon, ce sont des petits travaux, hein, mais ça n'empêche que ça arrive. C'est plus la majorité, mais il y en a certainement encore. Oui. Et puis, il y a des États en Inde qui sont beaucoup moins évolués que d'autres. Hein. Donc,
des États, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent des départements pour la France, ou des régions?
C'est plus que des régions. Ça fait un petit peu comme si vous preniez l'Europe. Avec des pays différents.
D'accord.
Voilà, mais sur un espace beaucoup plus restreint. Parce que ils ont, par exemple, vous avez un État qui s'appelle le Maharashtra, ou les États-Unis, par exemple, c'est le même principe. Hein.
D'accord.
Donc le Maharashtra, par exemple, ils parlent Marathi, donc ils ont des langues communes, mais ils ont aussi chacun leur langue, plus leur dialecte. Enfin. Donc il y a des États avec, donc il y a un gouvernement indien, mais chaque État a aussi son principe de gouvernement. Et là, il y a des États qui évoluent plus vite que d'autres.
D'accord.
Certains qui évoluent pratiquement pas.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses différences du coup dans le pays.
Ouais.
Quoi.
Ouais.
Quand on voit moi maintenant là, avec l'Inde, je vois la référence du film
Slumdog Millionaire.
Ah merci, parce que la translation était dure. Slumdog Millionnaire.
Ouais. Qui est un très beau film et qui reproduit vraiment bien. Après, bon, il faut décoder,
choquantes,
faut comprendre.
Vraiment choquantes, qu'on peut voir dans ce film. Mais du coup, c'est des choses qui, c'est pas forcément que de la fiction, ça existe, ça arrive encore.
Ouais. Ça reproduit beaucoup. Alors bon, il y a moins de misère, et puis surtout là, l'accès est mis sur le bidonville, donc forcément, oui. ça paraît plus fort. Des bidonvilles, il y en a toujours, hein, ça faut pas se leurrer, puis il y a pas qu'en Inde, hein. Mais ça reproduit vraiment bien l'ambiance. Ouais, c'est un film qui est vraiment très bien fait. Ouais.
Madame, à chaque fois, Marie-Dominique. Oui, mais j'arrive pas. Hein. Mais ça viendra au fur et à mesure. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Donc Marie-Dominique, Madame Fay, est-ce que vous auriez des choses à des réactions en fait par rapport à ce qu'on dit du coup depuis tout à l'heure sur l'Inde?
Moi, je rejoins un peu Daniel au niveau technologie, puisque je crois que je vous en avais parlé. J'ai mon fils qui est allé assez souvent en Inde dans le cadre de son travail. Et effectivement, il était stupéfait de voir l'avancée technologique en Inde, même par rapport à ce qu'il faisait, lui, en France. Tout comme je vous avais dit également, il est tombé malheureusement en Inde au moment d'une période de mousson et peut-être même la plus meurtrière, parce qu'ils sont restés coincés 2 jours entiers sans boire et sans manger dans une salle d'ordinateur avec 16 degrés. Et quand ils ont pu rentrer à l'hôtel, mon fils a vu des corps flotter dans les rues, puisqu'il y avait plus d'un mètre d'eau dans les rues. Et franchement, ça l'avait. Il est rentré très traumatisé.
Bah oui.
Plus par ce qu'il a vu que par le fait qu'ils aient été coincés 2-3 jours à l'hôtel. Mmh. Mais c'est vrai qu'au niveau avancé technologique, il était vraiment surpris de voir ce qui se faisait en Inde par rapport à ce qui se faisait même dans la boîte où il travaillait.
Et alors du coup, Daniel, est-ce que j'ai deux questions. On va commencer par au niveau de, vous parlez des téléphones portables, de l'accès à la technologie, etc. Hein, le salaire moyen en Inde, alors sans comparer avec la France, ça leur donne, on va dire, quelle aisance en termes d'achat et.
Alors très peu sont propriétaires, par exemple, parce que ça, c'est vraiment, ça coûte très cher pour acheter un appartement, une maison, étant donné qu'ils sont extrêmement nombreux. Donc, il y a peu de gens qui puissent accéder à la propriété. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, moi ça m'avait surpris une année de voir autant de téléviseurs dans les bidonvilles. Alors, super téléviseur, grand écran et tout. Parce que ils savent très bien qu'ils pourront jamais s'offrir autre chose. Voilà, pour eux ça fait partie de leur du confort, de la modernité. Ils s'intéressent beaucoup, bien sûr, à ce qui se passe partout ailleurs. Donc ça, tout ce qui est média, en fait, est vraiment très, très développé. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'avec toute cette modernité, il y a aussi toujours le traditionnel. Ça se côtoie très facilement. Vous avez, donc, pas en période de mousson, bien sûr, mais comme il fait à peu près 8 mois de l'année, un temps sec, eh bien, vous pouvez, dans les rues, par exemple, trouver un ordinateur, envoyer vos mails, ça se fait très facilement. Et ça peut se faire même à la porte d'un temple. Donc, il y a toute ce mélange, j'ai envie de dire, cette mixité entre la modernité, la tradition, tout est possible là-bas.
D'accord. Voilà,
tout est possible.
C'est un monde encore en création, donc, effectivement.
Oui, c'est ça, c'est... Moi, je me souviens, les premières années, quand je suis allée, ça me faisait penser à la France des années 40-50. Mmh. Et là, maintenant, il y a des, comme disait Marie-Dominique, il y a des domaines où on est complètement dépassé. Et puis, il y a des domaines qui sont juste à côté où on se dit, encore. Ah ouais, c'est assez surprenant. Ouais.
Alors, du coup, vous parliez un petit peu donc, du traditionnel. C'est quelque chose qui est très ancré là-bas.
Ah oui. La religion, toutes les religions, il y en a des quantités.
Il n'y a pas
très,
que
très présente.
L'hindouisme.
Il y a l'hindouisme, bien sûr. Il y a la religion musulmane, il y a un petit peu de bouddhiste, il y a des chrétiens. Puis alors après, ils ont leur culte, Shiva, le jainisme. Il y a beaucoup, 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 énormément de religions. le religieux est présent partout dans les rues. Il y a parfois des tout petits bouts de temples. Un jour, j'étais sur le trottoir, puis il y a des voitures qui s'arrêtent et motos qui s'arrêtent à un feu rouge. Quand ils s'arrêtent, mais là c'était le cas. Et je vois un monsieur qui fait un signe, je croyais qu'il me faisait bonjour, qu'il me saluait. C'est bizarre, je ne le connais pas, mais enfin bon, moi j'ai répondu. Puis en fait, je me suis aperçue qu'en fait, non, il y avait une statue qui était à côté de moi, et donc il y avait un tout petit temple. Voilà, c'était tout petit. Il y en a partout. Voilà, non, le religieux est très présent, et je pense que c'est aussi une source extrêmement importante au niveau de l'éducation. Beaucoup de choses sont régies par les lois religieuses, en fait, hein, ce qui permet de garder une certaine cohésion, beaucoup de tolérance aussi.
Un peu partout, quoi. Ouais. Et il y a des rivalités entre cultures religieuses, on va dire, ou
ça
c'est
arrive.
Plutôt accepté en règle générale?
En règle générale, c'est tout à fait bien accepté, mais il y a eu effectivement des difficultés. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'Indira Gandhi avait été assassinée quand... elle avait en partie fait détruire un temple sikh, et voilà. Bon, donc ça arrive, mais c'est assez rare. Moi, je n'ai jamais rien vu de ce problème.
Avant de faire une petite pause musicale, je pose une dernière question. Au niveau du coup, si la culture change, on peut supposer qu'au niveau de la, comment dire, du comportement. Je sais pas le terme, le côté que les Français ont une certaine manière de fonctionner, on va dire. Eux là-bas, il y a des choses particulières vraiment qui sont propres à leur culture.
Oui, je pense que, entre autres, je vois quand je suis allée avec des groupes, je disais toujours attention au niveau des femmes, par exemple, de ne pas être trop dénudée, de pas avoir de t-shirt ou des fesses, parce que tout ça, il y a beaucoup de codes, en fait. Hein. Quand on arrive en Inde, ça peut être surprenant dans le sens où, j'allais dire, pas un gros mot, mais ça fait un peu bordélique, quoi. Ils sont tellement nombreux, ça vit énormément, ça bouge partout. Et en fait, on s'aperçoit très rapidement, ne serait-ce que la circulation dans les rues, ça va dans tous les sens. Hein, très rapidement, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de codes. C'est très codifié. Il y a des choses, qu'on fait d'une certaine manière et tout. Le contact à l'argent, par exemple, on sort pas son argent comme ça. Il faut toujours que ça soit discret. Hein, il y a des choses qui sont au niveau du respect. Ils sont extrêmement respectueux. Il faut les respecter aussi. Mais ce sont des sortes de codes. De vie, et puis aussi parce que on est toujours dans la proximité tout le temps, on n'est jamais seul en Inde, c'est un mot qu'ils connaissent pas, la solitude, hein.
Parce qu'il y a tellement de monde que...
Il y a tellement de monde, oui, d'ailleurs quand ça m'arrive de parler avec eux, parce que bien sûr ils pensent que la France c'est le paradis, hein, donc moi je leur dis non, parce que vous savez, vous sentiriez très seul, ben non, c'est pas possible, il y a des gens en France, donc pour eux le mot solitude n'existe pas, ils s'isolent pour méditer, pour prier, ils aiment ça, mais solitude, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, c'est toujours la proximité, donc forcément, il faut essayer de décrypter ces codes-là assez vite pour vivre assez bien là-bas.
Oui,
mais bon,
ça
se fait très facilement. Hein. Je crois qu'on est on est assez bien en accord, hein, nous, Français, avec... D'ailleurs, ils nous aiment beaucoup.
Mais pourquoi ?
Ils aiment beaucoup les Français, parce qu'on a... J'ai jamais offert autant d'histoire de France qu'en Inde. Ils aiment beaucoup notre façon d'envisager la liberté, les droits de l'homme.
D'accord.
Ça, c'est une référence pour eux qui est extrêmement importante. Ouais. Quand ils me demandent de les réciter, les arts, moi je sais pas.
Ouais, en fait, dans l'idée, on est un peu c'est une forme de symbolique. La France symbolise
la liberté,
les droits de l'homme, la révolution.
Ouais,
voilà.
Voilà, c'est ça, la liberté, la qualité de vie, non, ils nous aiment beaucoup. Et puis aussi parce que là-bas, on a eu des comptoirs en Inde et on n'a pas eu le même comportement que les autres colonisateurs.
D'accord. Je crois que c'était anglais, les Indes.
Beaucoup d'anglais, bien sûr, oui, oui. Mais il n'y a pas que ça. Hein.
D'accord.
Il y a beaucoup de... L'Inde a attiré beaucoup, beaucoup de gens. Et les Français ont certainement été les, parmi les plus respectueux, ce sont les Français. Sont...
Ça fait plaisir à entendre, du coup.
Absolument, absolument, parce que quand on parle, pour eux, on est blanc, donc on parle anglais. Mm. Et quand ils nous demandent américain, on dit non, non. English, non, non. French. Ah! Et là, tout change.
Ah oui, ah, carrément, quoi. Bon ben super, eh ben merci. On va. Alors en fait, je pensais justement à toi, Pierrick. Je pensais mettre Rhythmetics.
Oui, ben si tu pouvais mettre la plus longue de Rhythmetics, parce qu'on a quelques soucis techniques à régler, donc ça sera l'occasion.
Ah, d'accord. Ben moi j'ai là j'ai 5 minutes 59.
On va faire plus.
En 6 minutes. Alors du coup, ben, mes chers auditeurs, on se retrouve dans 6 minutes après donc Rhythmetics. Donc ça c'est le groupe et le morceau c'est What Them Say.
Yeah.
Retour sur la rage 97.4 la-rage.fr toujours en compagnie donc de madame Marie-Dominique Faye.
C'est bon, c'est parfait.
Ça commence à bouger, ça rentre. Daniel Blainbouvier, donc madame Faye qui donc est présidente du comité de jumelage et madame Blainbouvier présidente de l'association Sampark. Juste avant, donc, alors, oui, je t'oublie aussi, Pierrick. J'ai toujours Pierrick aussi qui est là.
Pardon.
Pierrick, animateur de Sorini, qui essaye désespérément de faire quelque chose. Apparemment, en fait, on nous informe que on aurait alors de la friture, en quelque sorte, un genre
c'est
de grésillement.
De la friture et un son très très loin.
Voilà.
Là, je suis en train de t'écouter en décalé et je confirme.
Tu confirmes. Donc, impossible de savoir vraiment d'où ça vient finalement, parce qu'on a pas changé grand chose. Donc, mes chers auditeurs, je suis désolé de la qualité, mais on va vraiment essayer de faire ce qu'on peut. Puis Pierrick est à côté, il se démène. On va quand même reprendre, du coup, sur l'Inde. Donc, juste avant la coupure musicale, on avait discuté, en grande majorité de comment ça fonctionnait là-bas. Et on a commencé à dériver un petit peu sur le vif, vraiment, du sujet, du coup. Donc, Sampark, qu'est-ce que c'est?
Sampark en Inde, mm-hmm. hein, on est toujours en Inde.
Tout à fait.
Sampark, c'est un orphelinat.
D'accord.
C'est un orphelinat qui regroupe plusieurs centres. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un endroit où, par exemple, des femmes vont apprendre un métier. C'est un endroit où des jeunes vont dans les villages, par exemple, il y a des actions pour les écoles, pour pouvoir aider, toujours, le but c'est la même chose, c'est aider les enfants à grandir dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ça c'est vraiment, et d'ailleurs, Sampark, c'est, comment je dis, quand on traduit ce mot, je crois que c'est du tamoul, ça veut dire qui reste lié par les mains. Lié comme, voilà, la main dans la main, on reste lié. Donc, c'est la recherche, c'est de garder le lien familial.
D'accord.
Donc, même pour des enfants qui n'ont plus leurs propres parents, de pouvoir retrouver une sensation de famille.
Oui, Madame Faye, enfin, Marie-Dominique.
Non, j'avais l'impression qu'on avait un problème.
Mais en fait, c'est qu'on règle, on essaie de régler en même temps les micros. Alors du coup, ça donne quoi là?
Vous allez avoir sûrement deux trois fluctuations dans vos casques, mais continuez. Et moi, je vais essayer de régler comme je peux.
Ok. Ouais. Au niveau du retour, en tout cas, t'as pas. Voilà.
J'essaie de réduire un peu le bruit. J'essaie de voir. Là, pour l'instant, on vous entend mieux. C'est déjà ça.
D'accord.
Je peux encore monter. Alors, donc, Sampark, effectivement, l'association, non, orphelinat.
Orphelinat, là-bas, ils appellent ça organisation. Une organisation, alors, il y a plusieurs centres, dans plusieurs états. Par exemple, dans le Gujarat, il y a un centre qui a été ouvert suite au tremblement de terre qui a eu lieu en 2001, si je me souviens bien. Mm-hmm. vient du côté de, alors ça s'appelle Puri, c'est sur la côte est de l'Inde, tout un village dans lequel il n'y avait pas ni de sanitaire ni de, d'école, donc Saint-Parc a permis en fait toute l'évolution de cette petite ville, justement, parce que là aussi il y avait eu beaucoup d'enfants qui avaient été c'était suite, vous savez, quand il y a eu le tsunami là, il y a une partie de la côte indienne qui avait été touchée aussi. Hein. Voilà. Et puis sinon, ben, il y a des enfants qui n'ont plus de parents. Je dirais c'est peut-être la minorité des orphelins de deux parents, mais par contre, il y a beaucoup d'orphelins à qui il ne reste qu'un parent. Donc soit c'est la maman qui reste, et il y a encore beaucoup de femmes en Inde qui ne travaillent pas. Donc certaines donc se prostituent avec les enfants qui traînent sur les trottoirs. Donc Sam Park travaille avec une organisation aussi à Bombay qui récupère les enfants qui sont dans les rues, les enfants de prostituées, donc qui aident ces femmes-là à se remettre au travail, à trouver une activité plus valorisante. Et pendant ce temps-là, les enfants sont pris en charge pour éviter, surtout les
traînent dans la rue, effectivement.
Oui. Voilà, qui traînent dans la rue et que les petites filles très rapidement se retrouvent sur le trottoir.
Et c'est marrant, on dit du coup, on dit que c'est des orphelins, même s'il leur reste encore un parent.
Absolument. Orphelin dans le sens où, pendant quelque temps, les parents ne peuvent plus assurer leur rôle de parent.
D'accord.
Ça peut être aussi un papa qui se retrouve avec des enfants, il faut qu'il travaille, il peut pas, bon, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de nounou, tout ça, ça n'existe pas. Alors, si la famille est importante, les oncles et tantes vont récupérer les enfants, vont aider. Mais il y a aussi des gens qui n'ont plus beaucoup de famille et qui ne peuvent pas se faire aider. Alors, ce qui fait que les parents, ça peut être un dépôt, j'allais dire, c'est pas le terme, hein. C'est-à-dire qu'ils demandent de l'aide, en fait. Hein. Ils demandent de l'aide à Saint-Parc pour les enfants qui vont rester le temps que les parents puissent assurer. Si, par exemple, c'est un papa, il va retrouver une femme, et quand il aura une femme à la maison, il pourra reprendre ses enfants. Si c'est une maman, elle peut apprendre un métier. Et il y a un groupe de femmes aussi, un Saint-Parc, qui peut apprendre la couture, enfin différents métiers de femmes. Et quand elles sont aptes, il y a aussi le microcrédit, vous savez. Et donc elles s'installent, elles peuvent s'installer. Et quand elles sont aptes à reprendre leurs enfants, elles peuvent le faire.
D'accord.
Voilà, donc c'est vraiment essayer de garder le lien famille. Et donc le temps qu'ils sont à l'orphelinat, ce sont des orphelins, parce qu'en plus ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Il faut éviter de leur faire rencontrer leurs parents très souvent, pour plusieurs raisons. L'une, si c'est par exemple, c'est une maman qui voit souvent son enfant, elle ne va pas forcément trop se mobiliser pour apprendre un métier. Et puis, un enfant, il a toujours préféré avoir sa maman plutôt que d'être à l'orphelinat, même s'il veut très bien.
Oui.
Donc chaque fois, c'est perturbant. Hein. Donc ils ont toujours l'idée qu'un traumatisme, perdre un parent ou des deux parents, c'est déjà beaucoup. C'est pas la peine de rajouter des traumatismes supplémentaires.
Oui, je comprends.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces cas de figure-là. Donc il y a, d'ailleurs dans le petit speech du directeur, là, il nous explique bien qu'il y a 350 orphelins, mais en fait il y a 750 enfants en tout, dans tous les différents centres de Saint-Paul.
Justement, vous en parlez, je pense qu'on va, le mettre à l'antenne. En fait, vous avez, donc il y a le directeur de l'orphelinat qui nous a enregistré un message.
Voilà, Annette Banerjee. Qui est venue ici à Trou, d'ailleurs, en 2005.
Voilà. Elle a été reçue à l'époque
Oui, il a passé quelques jours là dans la région. Il avait été reçu à la mairie. Voilà. C'était un moment important, puisque notre aide à nous consiste essentiellement dans le parrainage. Donc on avait réuni tous les parents, enfin tous ceux qui avaient pu venir, pour les rencontrer. Et son désir est de revenir, mais bon, financièrement.
Oui, c'est un peu compliqué. Alors, donc, oui, ce monsieur nous a donc enregistré un message, a passé à l'antenne, et vous nous l'avez gentiment traduit en français, afin que, bien entendu, tout le monde puisse comprendre. Donc, du coup, je vous passe, en fait, cet extrait. Ça dure 5 minutes, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
For giving me the chance to speak from India, speak about Samparka.
Samparka France, en association avec Samparka Inde, est une organisation à but non lucratif, non politique, non gouvernementale, qui travaille au développement de l'enfant pour le soin des orphelins, des enfants pauvres et nécessiteux et enfants de mères prostituées, donc désavantagées. En Inde, beaucoup de travail est fait, mais vraiment le soutien pour les enfants pauvres dans le besoin est très petit. Même aujourd'hui, l'aide apportée pour un enfant, tout confondu, est inférieure à 1 euro par jour. Nous sommes reconnaissants à Daniel et ses amis en France pour l'aide et le soutien aux enfants de Samparka. Daniel visite Samparka très souvent, elle vient et voit les besoins des enfants. Elle est venue pour la première fois en 2001, quand il y avait une centaine d'orphelins qui vivaient au centre de Badji, au pied du temple. En vivant avec nous, elle réalisa combien nous avions besoin de l'aide que nous demandions. De retour en France, elle m'écrivit pour me faire part de son désir d'aider quelques enfants de Samparka. Sa philanthropie, son cœur et son esprit inspirèrent la confiance des gens de Samparka. Nous étions très contents d'apprendre cela. Elle démarra les activités dans cette association du nom de Samparka France, juste pour aider ses enfants en Inde. Nous sommes très reconnaissants de la générosité de tous les gens qui font des dons, qui parrainent les enfants de notre orphelinat près de Pune, à 100 km de Bombay. Je viens d'apprendre que Daniel assiste à une émission de radio pour parler de Samparka. Je profite de cette opportunité pour transmettre de tout cœur tous mes vœux à vous tous en France et vous prie d'accepter nos meilleurs souhaits de la part du personnel et des enfants ici en Inde. Samparka gère maintenant 7 centres d'orphelinat, 2 écoles et internats pour 650 orphelins et 750 enfants pauvres pour leurs soins, leur santé, leur éducation dans différents états, le Maharashtra, le Gujarat, Rajasthan et le Bengale Ouest. Samparka dépend totalement de donations individuelles ou de sociétés et s'occupe des enfants à partir des fonds reçus de donateurs philanthropiques, et tout particulièrement venant de France et quelques autres pays. Sans votre soutien, nous ne pourrions pas faire fonctionner notre organisation. Et je remercie beaucoup Daniel et l'ensemble de son groupe pour l'aide apportée à 40 enfants par parrainage. Cette année, nous devons faire face à une pression financière et prions Dieu de nous aider à surmonter la situation. Je demande aux donateurs de nous aider, si possible, à hauteur de 1 euro par jour, par enfant, pour répondre aux besoins basiques. Je remercie de tout cœur tout le monde pour leur soutien, et si la situation financière devait s'améliorer, devenir favorable, j'aimerais vous rencontrer en France. Je souhaite que l'aide apportée par les Français continue pour surmonter la crise à laquelle nous sommes confrontés. Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir passer du temps avec les enfants et nous aider dans nos activités pour le développement de ces enfants. Pour de plus amples informations, s'il vous plaît, visitez notre site. C'est www.samparc.org. Et encore, merci, merci beaucoup.
Nous revoici après ce donc court extrait. On a pu entendre le directeur toujours de l'orphelinat sur place qui s'appelle également Sam Park, comme l'association que vous.
C'est d'ailleurs pour ça que notre association s'appelle Sam Park. On a pris le nom de l'orphelinat tout simplement.
Et donc pour ceux qui n'avaient pas du coup, vous êtes présent, vous n'avez pas entendu l'enregistrement. Grosso modo, effectivement, c'est un enregistrement qui donc nous parle de tout ce qui est en lien avec l'orphelinat, le nombre effectivement de personnes, et donc comment ça se passe un petit peu là-bas et quelles étaient leurs attentes. Du coup, par rapport à ça, ce qu'on vient d'entendre, vous, au niveau de votre association, qu'est-ce que vous faites?
Alors, nous, on essaie de les aider. C'est essentiellement un problème financier, hein, parce que là-bas, ils ont du savoir-faire, ils ont de la main-d'œuvre, ils savent tout bien faire. Ce qui leur manque, ce sont les moyens. Donc, par le système des parrainages, on peut aider pour 220 € par an un enfant à grandir dans de bonnes conditions, aller à l'école, avoir accès aux soins, tout ce qui entoure l'enfant. Le parrainage, c'est quelque chose très très bien vécu là-bas. Ils apprécient beaucoup, et d'autant plus quand, comme c'est arrivé à plusieurs reprises, j'organisais des rencontres en fait, et quand les parrains vont là-bas et rencontrent leurs filleules, c'est toujours des moments merveilleux. Et puis il y a aussi, nous en tant qu'association, quand on va là-bas, ou on fait venir d'Inde de l'artisanat, et on tient des stands dans différentes manifestations, ce qui fait que le bénéfice nous permet d'envoyer un petit peu d'argent là-bas aussi en plus. Donc c'est essentiellement de cette manière-là qu'on les aide. C'est de l'argent, tout simplement. Alors aussi, bon, j'ai des gens gentils qui donnent simplement, qui font des dons, mais c'est ça, c'est de l'argent. Alors, comme le disait Amit, qui me faisait pas mal de compliments, moi j'ai toujours précisé qu'on n'était pas des gens riches, mais qu'on était plus riches dans notre cœur que dans notre porte-monnaie. Parce que c'est vrai que, bon, par exemple, avec certains pays, entre autres les États-Unis, le parrainage est beaucoup beaucoup plus cher. Chez nous, c'est pas possible. Donc, on fait à hauteur de nos moyens et on fait avec notre cœur et ça crée de très très belles relations. Voilà.
Marie-Dominique, est-ce que vous auriez éventuellement quelque chose à votre avis sur cette association, sur ce qui se fait en Inde?
Je voulais demander à Daniel justement comment ils aidaient. J'ai eu la réponse à ma question. Comment ils aidaient,
donc ça me parle,
voilà. Et puis je crois que je vais adhérer à votre association. Non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, ma mère l'a fait, mais pas pour l'Inde. Elle l'a fait pour l'Afrique. Et c'est vrai. Bon, elle n'a jamais rencontré ses filleules. Mais les filleules lui écrivaient régulièrement et je sais qu'elle était vraiment ravie. Et puis c'est vrai que 220 €, bon. Je sais que pour certaines personnes, c'est 220 €, mais.
À l'année, oui, effectivement.
Mais, par contre, là, c'est une chose effectivement qui ne se fait pas beaucoup en Inde, c'est l'écriture. Alors ce ne sont pas des gens qui écrivent, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup, ils parlent tout le temps, ils répètent tout le temps les mêmes choses et tout, mais ils n'écrivent pas beaucoup. Donc, les gens qui parrainent reçoivent un courrier, en général un seul courrier dans l'année, C'est généralement vers la fin de l'année. Alors il y a une carte, on a aussi une carte de vœux, enfin bon, un petit mot des enfants, et puis un rapport aussi pour parler de l'évolution de l'enfant sur le plan santé, sur le plan mental, sur le plan école, enfin sur tous les plans. Quoi. Donc, mais ça par contre, il n'y a pas beaucoup d'échanges épistolaires parce que c'est pas dans leur culture d'écrire. D'ailleurs, pour trouver des enveloppes en Inde, c'est pas facile. Les timbres coûtent cher. Ouais, plus cher qu'en France, donc pour eux, ça représente beaucoup. Enfin bon, voilà. Donc, c'est presque aussi cher d'envoyer un courrier que d'aller manger au restaurant chez eux. Donc, il n'y a pas beaucoup de courrier. D'accord. Voilà.
Effectivement, donc, oui. C'est une grosse différence. Quoi.
Alors, après, bon, c'est vrai, il y a aussi une difficulté, parce que maintenant, avec les ordinateurs, on pourrait communiquer, il suffirait que les gens... Mais bon, il faut parler anglais.
Oui.
Parce que parfois français. Donc ça peut être un handicap pour beaucoup de gens au niveau de la communication.
Et puis, il y a toujours aussi le fait de se dire que, effectivement, la situation est éloignée, qu'on a aussi nos problèmes, et que donc, effectivement, on va être tenté de pas forcément justement, avec la mathématique, s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir au reste du monde.
Moi, j'en ai vu les résultats là, depuis de 3 ans, où il y a de moins en moins de gens qui parrainent, entre autres des gens qui ont des difficultés, des choses comme ça, et qui ont arrêté leur parrainage. Donc, on a parrainé jusqu'à 40 enfants, et là, maintenant, on n'en est plus qu'à 23-24. Ça, en 3-4 ans, ça dévance. Vraiment...
Ça change, oui.
Voilà. On parle de la crise, alors bon, on se cache peut-être beaucoup derrière, je sais pas, mais enfin, c'est le cas. En même temps, ce qui me ravit, moi, c'est que, comme en Inde, le niveau s'élève, il y a quand même de plus en plus d'Indiens qui aident là-bas. C'est pas encore beaucoup, mais c'est beaucoup plus qu'avant quand même. Donc ça, c'est déjà bien aussi, parce que s'ils ont tenu, d'ailleurs, ils le disent souvent, quand on y va... ils nous remercient beaucoup, ils nous invitent au restaurant, ils éprouvent le besoin de nous communiquer non seulement leur reconnaissance, mais chaque fois ils nous expliquent que le fait qu'on les aide, ça les réconforte, parce qu'ils se sont sentis beaucoup abandonnés dans leur propre pays, et ça les motive en fait, hein. On est un petit peu un moteur, et c'est bien expliqué à tout le personnel là-bas que vous vous rendez compte des Français qui nous aident, il faut leur faire honneur, et du coup voilà, ça, on joue un rôle important pour eux.
Alors du coup, imaginons, je suis intéressé, je vous entends là, en ce moment, et je suis intéressé pour adhérer à votre association, et du coup parrainer un jeune Indien. C'est quoi la démarche? Quelle est la démarche?
Ben, c'est de se mettre en relation avec nous, donc soit par téléphone, soit peu importe, le moyen, et par écrit.
Numéro de téléphone.
Alors moi, je m'appelle Daniel Blain-Bouvier, j'habite à Courset. Alors je suis dans l'annuaire, donc Blain B-L-I-N, Bouvier B-O-U-V-E-R. Il y a possibilité de m'écrire aussi, et puis à internet, c'est peut-être pas le plus simple parce que mais je veux bien donner mon adresse internet, mais voilà.
Non, donc, de toute façon, après il y a aussi le site internet de la mairie de Truy.
Il y a aussi
où on
voilà.
retrouve toutes les informations effectivement sur votre association.
Et puis alors nous on a un blog aussi, donc ça peut alors pour aller sur notre blog, il faut faire je crois que c'est alors http://sampark.free.fr et là donc c'est peut-être pas très à jour là parce que la personne qui s'en occupe a des soucis. Et si on a quand même une adresse mail, c'est sampark@free.fr. Donc avec tout ça,
on la retrouve sur le site.
On retrouve ça, tout ça sur le site.
Donc du coup, ça nous donne sampark.free.fr ou la mairie de Truy, et vous pouvez trouver absolument toutes les, au moins de quoi contacter Madame Lamouille.
Voilà. Et à partir de là, moi, je me mets en relation avec Sampark en Inde. On peut choisir, si on préfère, parrainer un garçon ou une fille.
D'accord.
Ça, c'est une possibilité. tellement d'enfants qu'on peut se permettre. Moi, j'irais plutôt, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'à une époque, les gens me disaient qu'est-ce qui serait le mieux. Moi, je disais mieux peut-être les filles. Parce que les filles, c'est vrai qu'il y a quelque chose en Inde qui est très important, c'est le mariage.
Oui.
Et pour le mariage, il y a la dot. Voilà. Donc, une dot qui peut ne pas représenter beaucoup pour nous, une dot 150, 200, 300 euros maximum. Mm-hmm. Mais pour eux, c'est énorme. Et s'il n'y a pas la dot, il y a plus de difficultés pour trouver le mari. En général, à Saint-Parc, alors non seulement ils s'occupent des grandes filles pour les marier, mais qui veulent se marier parce qu'elles sont pas obligées, mais surtout ils font très attention, il faut que les filles aient au moins 18 ans, parce qu'il y a encore des mariages qui sont faits dans certains états avec des jeunes enfants. Des jeunes filles. Donc, tout est fait bien comme il faut.
Voilà. Très bien. Sur ces belles paroles, on va encore se faire une petite pause musicale. Et on reprendra les choses juste après avec donc Chypre maintenant. Nous allons reprendre en fait notre voyage vers bah, finalement le c'est le sud de l'Europe, la Méditerranée.
L'est, l'extrême est de la Méditerranée.
D'accord. Donc par rapport à nous, ça nous fait du sud-est. Très bien. Bon, et ben tout de suite alors du coup avec donc le groupe Samtash avec le morceau Les arbres qui courent, et ensuite nous reprendrons notre voyage. À tout de suite.
Moi je voulais être un arbre qui court, couper courir aux arbalètes, arbalot ou bol de dollars. Moi j'étais sourd à ces serre-têtes, j'avais pourtant connu la faim des disettes par dizaines, mais presque à chaque fois par choix c'est certain. Misère, mi-crocodilien, mi-profane, des viscères de sauriens, des bois vissés au crâne et un dos portant deux mains. Vivant en hardé hors des gouffres, je ne voyais pas, je n'entendais rien, car tous ces jardins l'on pousse, non pas de ma forêt les copains, mais en nous tous c'était cette graine, ce germe informe, immatériel, irradiant sortant d'autres veines, dire que d'autres le croyaient virtuel. Il était là, et il appelait, il s'attirait comme un aimant, zappant le vide et la censure, zappant les racines et le temps, et puis le spleen et l'écriture, et même le sang sur les murs blancs. Alors j'ai vu, comme un million de fœtus en chaîne, autant de jeux pour un seul on, comme une vérité qu'on assène. On voulait être des arbres qui courent, mais restez nous dans notre écorce. Rosser les apôtres aux pieds lourds, et puis tous ceux qui bombaient le torse. Alors on a parlé clairement, on nous a pris pour des enfants. Alors on n'a pas pris les gants, et on a vu voler nos dents. Et comme pour ne plus qu'on se cadre, énième tentative pathétique, on nous tend des chaussures en marbre, entrées au sol et magnifique, non? Nous que j'étions, alors j'ai vu les routes de vide et les mains nues des chamans aux rayons accrus. Nous que j'étions, alors j'ai su. On est parti dans tous les sens, ma tête aux pieds à des sandales, mais j'emplis l'espace quand je pense, car mes racines traversent les dalles. D'autres ont mangé leurs chevaux, et des cornes poussent sur leurs épaules, dès lors c'est la selle sur le dos que leurs fontes sont devenues leurs choses. En y plaçant le temps, les économies et les gosses, en un lien tissé c'est si puissant comme pour tirer le carrosse. Que ça croisse et que ça se dépasse, toujours ça croisse et ça se froisse, ça bosse, ça se casse, mais ça se remplace, et si moi... Moi je voulais être un arbre qui court, couper courir aux arbalètes, arbalot ou bol de dollars. Moi j'étais sourd à ces serre-têtes, j'avais pourtant connu la faim des disettes par dizaines, mais presque à chaque fois par choix c'est certain. Misère, mi-crocodilien, mi-profane, des viscères de sauriens, des bois vissés au crâne et un dos portant deux mains. Vivant en hardé hors des gouffres, je ne voyais pas, je n'entendais rien, car tous ces jardins l'on pousse, non pas de ma forêt les copains, mais en nous tous c'était cette graine, ce germe informe, immatériel, irradiant sortant d'autres veines, dire que d'autres le croyaient virtuel. Il était là, et il appelait, il s'attirait comme un aimant, zappant le vide et la censure, zappant les racines et le temps, et puis le spleen et l'écriture, et même le sang sur les murs blancs. Alors j'ai vu, comme un million de fœtus en chaîne, autant de jeux pour un seul on, comme une vérité qu'on assène. On voulait être des arbres qui courent, mais restez nous dans notre écorce. Recez les apôtres aux pieds lourds et puis tous ceux qui bombaient le torse. Alors on a parlé clairement, on nous a pris pour des enfants. Alors on n'a pas pris les gants et on a vu voler nos dents. Et comme pour ne plus qu'on se cadre, énième tentative pathétique. On nous tend des chaussures en marbre, ancrées au sol et magnifique, non? Nous que j'étions, alors j'ai vu les routes de vide et les mains nues des chamans aux rayons accrus. Nous que j'étions, alors j'ai su. On est parti dans tous les sens, ma tête aux pieds à des sandales. Mais j'emplis l'espace quand je pense, car mes racines traversent les dalles. D'autres ont mangé leurs chevaux et des cornes poussent sur leurs épaules. Dès lors c'est la selle sur le dos que leurs fonds sont devenus leurs choses. En y plaçant le temps, les économies et les gosses, en un lien tissé si puissant comme pour tirer le carrosse. Que ça croise et que ça se dépasse, toujours ça croise et ça se froisse. Ça bosse, ça se casse, mais ça se remplace. Et si moi je veux sortir de la classe, hein, on me dépoussière à coups de crasse. C'est comme ça que ça se passe. On voulait être des arbres qui courent, quitte à ce qu'on nous prenne pour des teintes. Pour faire de notre serre un sang lourd, on s'est mis du plomb dans la seringue. Oubliant nos sacoches, partant à cru et sans guidon. On l'a même pas vidé nos poches parce qu'on avait plus de pantalons. Et puis nos yeux ternis d'un revers de la main, ne pouvant se résoudre au déni sur notre carton but de main. Oui, on a craché des bouteilles de gaz au pied de leur muraille de verre, pour l'idée à la matière d'une seule phase, pour les cacher auprès d'un verre. Les globules du jus des villes, devenus métal coagulés après leur diffusion servile, marquaient la marche par leur arrêt. La fission autonome était, car elle admettait le reptile. Loin des attentes précalibrées, des considérations futiles. Ceux qui ont vu ont survécu, ceux qui ont su sortir des fils. Car ni leur guerre, ni leur révolution, jamais ne sauront se passer d'un air pour qu'il ne reste qu'évolution. Et puis qu'on laisse parler l'éther. Et puis qu'on laisse parler l'éther. Des ailes de feu sortant de nos ventres pour voler à contre-courant. Nous nous sommes terrés dans nos antres y attendant le bon moment. Nos graines ont laissé passer l'hiver et puis nos racines ont couru. Et bien loin du vide des cratères, on vit s'ébattre nos branches nues. On voulait laisser parler les terres. On en a croqué des tranches crues. On en a croqué des tranches crues. On voulait courir comme des arbres. Alors on vit parce qu'on, vit parce qu'on a vu qu'avec de belles chaussures en marbre, on fait moins de chemin que pieds nus.